Ce matin, j'aimerais lire avec vous un psaume, le chapitre 44 du livre des psaumes. Vous pouvez le suivre dans vos Bibles, dans vos traductions, ou alors écouter la lecture que je vais en faire. Psaume, chapitre 44. Du chef de chœur des fils de Corée, poème. Ô Dieu, nous avons entendu, nos pères nous ont raconté l'œuvre que tu as accomplie en leur jour, au jour de jadis. De ta main, tu as dépouillé des nations pour les planter, tu as frappé des peuples pour leur permettre de s'étendre, car ce n'est pas avec leurs épées qu'ils ont pris possession du pays, ce n'est pas leurs bras qui les a sauvés. Mais c'est ta main droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu leur étais favorable. C'est toi qui es mon roi, ô Dieu. Ordonne le salut de Jacob. Avec toi, nous renversons nos adversaires. Par ton nom, nous écrasons ceux qui se dressent contre nous. Car ce n'est pas en mon arc que je mets ma confiance, ce n'est pas mon épée qui me sauvera. C'est toi qui nous sauves de nos adversaires et qui couvre de honte ceux qui nous détestent. Nous sommes sans cesse fiers de Dieu, nous célébrons toujours ton nom. Cependant, tu nous as rejetés. Tu nous as couverts de confusion. Tu ne pars plus en campagne avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'adversaire. Et ceux qui nous détestent pillent tout ce qu'ils veulent. Tu nous livres comme des moutons qu'on dévore. Tu nous dissémines parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien. Tu le brades. Tu nous livres aux outrages de nos voisins, aux moqueries, aux railleries de ceux qui nous entourent. Tu fais de nous la fable des nations. On hoche la tête sur nous parmi les peuples. Ma confusion est sans cesse devant moi. Ma honte me couvre le visage à force d'entendre outrages et injures, de voir l'ennemi vindicatif. Tout cela nous arrive et nous ne t'avons pas oublié. Nous n'avons pas trahi ton alliance. Notre cœur n'a pas reculé. Nos pas ne se sont pas écartés de ton sentier pour que tu nous écrases dans la demeure des chacals et que tu nous couvres du nombre de morts. Si nous avions oublié le nom de Dieu, si nous avions tendu les mains vers un Dieu étranger, Dieu ne l'aurait-il pas découvert, lui qui connaît les secrets du cœur? Mais c'est à cause de toi qu'on nous tue sans cesse, qu'on nous considère comme des moutons d'abattoir. Lève-toi! Pourquoi dors-tu, Seigneur? Éveille-toi, ne nous rejette pas à jamais. Pourquoi te détournes-tu? Pourquoi oublies-tu notre affliction et notre oppression? Car nous sommes abattus dans la poussière, notre ventre s'attache à la terre. Lève-toi pour nous secourir. Libère-nous à cause de ta fidélité. Comment ressentez-vous la lecture de ce psaume? Comment est-ce que vous la recevez? Est-ce que vous voyez des points communs avec votre vie? Est-ce que c'est une prière que vous avez déjà formée, que vous avez eu envie de former? C'est un psaume particulièrement intense dans ce qu'il exprime. Et il est un signe que Dieu sait ce que nous ressentons, il le comprend. N'ayons pas peur de nous exprimer. Mais on va laisser pour un temps de côté ce que nous ressentons pour comprendre ce texte, pour comprendre ce psaume. Les psaumes dans la Bible, ce sont des textes liturgiques, des prières, des chants. Et je crois qu'ils ont une fonction pour nous, celle de nous apprendre à prier. En regardant la façon dont des croyants plus anciens, nos aînés dans la foi, ont prié, et surtout en trouvant ces prières dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Donc quelque part, Dieu valide ces prières. Nous avons des modèles que nous pouvons utiliser pour nous aussi. Aussi, soyons attentifs à ces modèles pour apprendre à prier. Une remarque préalable concernant ce psaume. Ce psaume ne parle pas d'un individu, de sa vie en particulier, mais il parle à la première personne du pluriel, il parle du peuple de Dieu. Et on vit dans une société individualiste, chaque personne a une grande valeur. L'individualisme n'est pas que négatif, on a découvert la valeur de chacun pour lui-même. Mais ça a aussi des mauvais côtés, où on ne voit plus que notre nombril. Et attention, en tant que croyant, à ne pas devenir individualiste, à suivre le mouvement. Marcher avec Dieu, ce n'est pas être chrétien tout seul. Ce n'est pas avoir la foi comme une affaire privée. J'ai ma foi, je prie pour mes soucis. Ça me fait du bien, c'est mon truc. Et si on se retrouve ensemble dimanche, c'est pas par hasard, parce qu'il se trouve qu'on partage la même foi, alors on se retrouve pour se motiver les uns les autres avant d'aller affronter ce qu'on a affronté, avant d'aller relever nos défis personnels. Non, avoir la foi, marcher avec Dieu, c'est marcher ensemble. Israël était un peuple avec un destin commun, et l'Église, dont nous faisons partie, avons également un destin commun. Le destin commun d'être ensemble, de nous réunir pour faire vivre le royaume de Dieu sur cette terre, de le répandre autour de nous, et d'attendre le retour du Seigneur pour ensemble nous réjouir de ce retour. La Bible ne nie pas l'individu. Et je crois que si nous vivons vraiment la communauté, que nous portons les fardeaux les uns des autres, que nous prions ensemble, nos destins individuels, nos charges individuelles deviennent moins lourds alors que nous les partageons. Cette remarque terminée, regardons plus précisément ce psaume. Ce qui m'intéresse quand je regarde un psaume, c'est de me poser la question, comment est-ce que celui qui écrit, qui rédige ce psaume, en est arrivé là ? Qu'est-ce qu'il vit pour écrire ceci, pour prier ceci. Et je pense que ce qu'il vit, le chemin de sa réflexion, ce n'est pas le texte que nous avons. Je ne pense pas que le psalmiste se soit dire et commencer sa réflexion en disant « Oh, c'est super ce que Dieu a fait dans le passé, et nous aussi aujourd'hui on vit avec lui. Oh ben tiens, c'est pas ce qu'on a. » Non, je pense que c'est plutôt l'inverse. Qu'il était dans les problèmes, j'ai des problèmes, nous avons des problèmes, nous n'arrivons pas à nous en sortir, et à force de réfléchir, sa pensée l'amène à élargir et à voir, à se souvenir, à comprendre le plan de Dieu de façon globale. C'est important, je crois, de réfléchir à ça, de réfléchir à comment on arrive à une même prière, parce que nous, dans ce qu'on vit, c'est ça ce à quoi on fait face. On a des défis, et qu'est-ce qu'on en fait ? On a une méthode ici, à travers le résultat de la prière qui est dans ce psaume. Alors, ce psaume est particulièrement structuré. 5 paragraphes. Dans ma traduction, il y avait des sauts de ligne pour les voir, mais ça saute aux yeux, j'ai trouvé à la lecture, de retrouver ces 5 paragraphes. Alors, je vous ai fait ce tableau. La première partie, c'est les versets 2 à 4, qu'on peut résumer par cette citation. « Nos pères nous ont raconté l'œuvre que tu as accomplie en leur jour. » C'est le souvenir du passé, souvenir de la conquête du pays d'Israël, cet événement qui a créé le peuple, qui l'a ancré dans un pays, qui l'a planté, comme dit le texte. Et le psalmiste se souvient qu'ils sont nés de la main de Dieu, de son action. Alors, des fois, quand on lit ces écrits anciens, on est embarrassé parce que ça parle de guerre, parce que ça parle de violence et qu'on ne sait pas trop quoi en faire. Mais on peut se souvenir que toutes les nations se sont imposées par la force, la France comme les autres. Toutes les nations ont pris des territoires, toutes les nations ont dû repousser des adversaires pour les tenir. Et je pense que ce qui est important pour nous, c'est que Israël se souvienne d'où il vient. Il reconnaît la main de Dieu, il reconnaît qu'il était un petit peuple, pas particulièrement militaire. Et on a un verset très important, c'est le verset 4. « Car ce n'est pas avec leur épée qu'ils ont pris possession du pays, ce n'est pas leur bras qui les a sauvés, c'est toi, Seigneur. » Même s'ils ont participé, c'est Dieu qui a été déterminant. Donc voilà, un premier paragraphe, souvenir du passé lointain, du passé fondateur, mais pas pour rester dans un passé lointain qui ne nous appartient pas. Et c'est le deuxième paragraphe. Ils s'approprient cette histoire et ils veulent la poursuivre. J'ai résumé ce deuxième paragraphe, les versets 5 à 9. « Avec toi, nous renversons nos adversaires. » Et c'est remarquable, hein, la façon dont ce paragraphe est rédigé au présent. « Nous renversons nos adversaires. » C'est une confession de foi, ils croient ça, qu'avec Dieu, ils peuvent avancer, mais c'est dit, c'est affirmé avec une grande force. Et donc, ce n'est pas une vague croyance, mais ils s'approprient leur histoire. Et il y a un clin d'œil, c'est que dans les versets 7, le psalmiste dit « Ce n'est pas en mon arc que je mets ma confiance, ce n'est pas mon épée qui me sauvera. » Ce qui fait référence à ce qu'on a lu tout à l'heure, le verset 4. Ce n'est pas avec leur épée qu'ils ont pris possession du pays, ce n'est pas leur bras qui les a sauvés. Ce qu'ils ont vécu, là où ils ont vu ta main, nous aussi nous voyons ta main et nous savons que ce n'est pas nous. Donc une confession de foi très forte avec une belle conclusion. Nous sommes sans cesse fiers de Dieu, nous célébrons toujours ton nom au verset 9. Et là, il y a une pause dans le texte. Et c'est écrit dans nos Bibles, pause, c'est écrit dans le texte original. Et il y a ce mot au verset 10. Cependant. Cependant, ce n'est pas ce qui se passe. Et on a un troisième paragraphe, les versets 10 à 17. Lui aussi, au présent, c'est pas ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est la défaite, c'est le pillage, c'est l'exil, c'est l'esclavage. Et ce qui est troublant, c'est que dans ces difficultés, le psalmiste voit également la main de Dieu. C'est logique qu'il voit la main de Dieu, si Dieu est puissant. Si les succès qu'ils ont connus avait pour cause sa présence. Alors, l'absence de succès, c'est qu'il n'est plus présent, c'est qu'il ne les aide plus. Et du coup, ce passage des versets 10 à 15 est assez accusateur. On est repassé à la deuxième personne du singulier. tu, mais c'est un tu accusateur. Tu nous fais reculer, tu nous livres comme des moutons, tu vends ton peuple, tu nous livres aux outrages. L'honnêteté de ce passage est impressionnante. Est-ce que vous osez prier comme ça ? Moi, j'avoue que non. Être aussi direct avec Dieu, j'ose pas, et pourtant, c'est dans la Bible. Le psalmiste demande des comptes à Dieu sur ce qui leur arrive. Et l'examen continue. C'est le quatrième paragraphe, les versets 18 à 23, où on repasse à la première personne du pluriel, à ce « nous ». Qu'est-ce que nous avons fait ? Nous nous examinons. Tout cela nous arrive et nous ne t'avons pas oublié. Dieu a fait alliance avec son peuple. Dieu a dit à Israël, à Jacob, « Je suis ton Dieu, j'assure ton soutien, mais tu dois faire ta part, et ta part, c'est de rester fidèle. C'est de ne pas te tourner vers d'autres dieux, c'est de ne pas tomber dans l'idolâtrie. » Alors, du coup, si on est honnête, on se pose la question. Est-ce qu'on a tenu notre part de l'engagement ? C'est le moment pour un examen du comportement. Est-ce qu'on a bien fait notre part ? Est-ce que ce qui nous arrive n'est pas mérité ? Parce que si nous avons respecté notre part, Dieu aurait dû faire la sienne. Et ce qui est dur dans ce psaume, c'est que après examen, la conclusion du psalmiste, c'est qu'ils ont respecté leur part. Et ça, c'est particulièrement difficile. Le psalmiste ne dit pas qu'ils sont parfaits, mais ils ne se sont pas tournés vers d'autres dieux. Ils sont restés fidèles au Seigneur. Que faire alors ? Que faire dans cette situation quand on est coincé et que ce qu'on sait qu'il faut faire, on le fait déjà ? Que faire ? Le psaume continue, comme une réponse à cette question « Que faire ?» Prier. Prier avec insistance. Lève-toi pour nous secourir. On est passé à l'impératif. Lève-toi, éveille-toi, libère-nous. Impératif assorti de questions. Pourquoi ? Pourquoi te détournes-tu ? Pourquoi nous oublies-tu ? Pourquoi dors-tu ? Mais là, il y a quelque chose qui, moi, me stupéfait. Et qui me stupéfait d'autant plus quand on se regarde, nous, comment on est, nous, comment on vit notre vie chrétienne. Quand ils sont dans une difficulté, qu'ils sont dans l'impasse, qu'ils n'obtiennent plus rien de Dieu, ils prient. J'ai l'impression que nous, souvent, quand on se retrouve dans cette situation, eh bien, puisque c'est comme ça, je ne viens plus à l'église. Puisque c'est comme ça, je ne lis plus la Bible. Puisque c'est comme ça, je ne prie plus. Puisque c'est comme ça, je me coupe. Mais eux, ils prient quand même. Parce que même quand Dieu ne fait pas ce qu'ils veulent, Dieu reste Dieu. Dieu reste leur Dieu, le seul recours, finalement. Même quand il ne fait pas ce que nous voulons, il reste Dieu. La conclusion du raisonnement du psalmiste qui est parti de cette difficulté, c'est d'arriver à ce point que c'est Dieu qui agit. Et même si je ne le comprends pas, même si je ne comprends pas ce qui m'arrive, il faut prier. Alors ils le font. Ils le font par cette prière, ensemble et avec insistance. Je disais que nous avons un modèle de prière dans ce psaume, dans les psaumes, et dans celui-là en particulier. Et nous pouvons utiliser la même démarche. Lorsque nous faisons face à un problème, reconnaissons ce problème. Dieu ne nous répond pas, reconnaissons-le. Ensuite, il y a un temps de réflexion pour mieux comprendre Dieu, relire ses promesses, son alliance, pour mieux comprendre peut-être que je m'étais fait une fausse idée de Dieu. Cette souffrance, c'est l'occasion d'affiner ma compréhension de Dieu. Et après cela, c'est le temps d'examiner mon comportement, d'examiner ma propre fidélité. Est-ce que j'ai rempli ma part du contrat? Est-ce que je n'ai pas lâché la main du Seigneur pour essayer de m'en sortir tout seul au lieu de compter sur lui? Est-ce que je n'ai pas, dans ma vie, laissé s'installer le péché qui me coupe de Dieu? Et une fois cette réflexion, cet examen fait, on peut se tourner vers Dieu, ayant mieux compris quoi lui demander. Et cette prière nous apprend à oser. Je l'ai dit, elle est dans la Bible, la parole de Dieu. Dieu agrée cette prière. Nous pouvons oser être directs avec Dieu. Et vous savez quoi ? Je crois que Dieu aime ça. Il aime ceux qui demandent avec insistance. Il aime le dialogue avec ses enfants. Il aime quand nous prenons conscience que nous n'allons pas vers lui en ayant peur que si jamais on dit un mot qui dépasse, alors il va se mettre en colère. Il veut que nous soyons prêts à avoir une relation de proximité. De toute façon, vous savez quoi ? Dieu connaît les cœurs. Si nous sommes en colère, il le sait déjà. Pourquoi essayer de lui cacher ce qu'il sait déjà? Il n'y a que nous qu'on essaye de duper. J'affirme ça, mais je repense à des modèles bibliques. Je repense à Abraham qui a négocié avec Dieu le salut de Sodome et Gomorre et qui a insisté, hein. Je repense à Jacob. Carrément, lui, il a lutté, il s'est battu contre Dieu physiquement. Je repense à Moïse qui a imploré que Dieu n'extermine pas son peuple quand il était en colère. Il y a une invitation à être direct, à être en confiance avec Dieu quand nous dialoguons avec lui. Et osons également nous examiner, reconnaître ce que nous faisons et reconnaître ce que nous faisons de bien. Nous sommes pécheurs, nous nous débattons avec le péché. Mais nous pouvons, dans les grandes lignes, rester fidèles à Dieu et nous pouvons le dire à Dieu. Pourtant, Seigneur, je suis fidèle. Parce que la Bible nous enseigne que même en étant fidèle, on fait face à des difficultés. Et là encore, je repense à de grands modèles. Je pense à Joseph qui a été vendu par ses frères, renvoyé en esclavage, séparé de sa famille. Je pense à Job, la figure de celui qui souffre sans raison. Je pense à Jésus, notre Seigneur, fidèle en tout. Alors lui, ce n'était pas juste dans la grande direction, c'était en tout qu'il était fidèle. Il a prêché avec fidélité. Il n'a pas été écouté. Au contraire, il a été arrêté et mis à mort pour de fausses accusations. Oui, même quand on est fidèle à Dieu, tout ne se passe pas bien. Et je crois, mes amis, que la souffrance est l'occasion d'avancer avec Dieu. C'est l'occasion de voir. Si nous le suivons parce que tout va bien ou parce que nous avons foi en lui, est-ce que nous sommes prêts à le suivre et à garder cette même foi quand tout ne va pas bien? Ayant ce temps de prédication en tête, j'ai vu les chants de façon différente. Ce chant que nous avons chanté, « Jésus, je te suivrai, si tout va bien ou si tout va mal », nous le chantons, sommes-nous prêts à le faire? C'est la souffrance qui nous montre, qui nous révèle à nous-mêmes si effectivement nous sommes prêts à le faire ou pas. La souffrance est aussi l'occasion de mieux comprendre Dieu. Elle nous donne l'occasion de réfléchir à ce qu'il nous demande, à ce qu'il nous promet. Ce qu'il nous promet, ce n'est pas toujours la facilité, mais c'est aussi des luttes. La souffrance est l'occasion de nous examiner. Quand tout va bien, on ne s'examine pas. On prend ça pour une validation. Mais quand c'est dur, on s'interroge. Et on fait le tri. Là, je fais bien. Et là, non. La souffrance est un lieu de croissance, l'occasion d'être plus dépendant de Dieu. Mais il nous faut aussi aborder la question. La question que soulève ce psaume. Pourquoi Dieu ne répond-il pas? On peut se dire, on n'a pas la fin de l'histoire. C'est peut-être qu'après cette prière, tout s'est débloqué. Mais justement, soyons honnêtes, on n'a pas la fin de l'histoire. Et on ne sait pas. On ne sait pas si cette génération a vu une réponse, on ne sait pas si la suivante a vu une réponse. Ce psaume ne répond pas à la question. En travaillant ce texte, j'ai lu des commentaires et les commentaires se posent une question qui les préoccupe, c'est quand est-ce que ce psaume a été écrit? Et il y en a qui pensent que ça a été écrit à l'époque de l'exil babylonien, le moment où le peuple a été pris et envoyé dans un autre pays, vendu en esclavage. C'est une question historique qui intéresse les commentateurs, qui a aussi une implication théologique. C'est que si c'est effectivement cette période et que c'est de cet événement que parle celui qui écrit, alors il se trompe. Le peuple n'a pas été fidèle. Nous avons d'autres écrits, les écrits des prophètes, qui disent qu'ils sont dans la fidélité. Le psaume, quelque part, serait empreint d'une certaine hypocrisie, en tout cas d'un manque de clairvoyance, celui qui l'écrit. C'est une piste qui ne me plaît pas. Parce que, comme je vous l'ai dit, la Bible est parole de Dieu. Ce psaume est validé par Dieu. La Bible, ce n'est pas une collection d'expériences religieuses où les gens ont consigné ce qu'ils vivaient, quelles étaient leurs impressions. C'est la parole de Dieu que Dieu a validée. Et je pense que Dieu, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il nous a écrit, Dieu nous livre ce psaume avec cette question. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu n'intervient pas? Et cette question, on peut l'avoir dans nos vies aussi. On peut avoir des questions sans réponse, des souffrances qui durent. Et quand on regarde, l'impression qu'on est fidèle. Pourquoi? En lisant ce psaume récemment, j'y ai découvert un passage secret. La Bible est un peu un labyrinthe et parfois il y a des raccourcis ou des passages secrets. Je ne sais pas si vous avez vu ce passage secret, il se trouve au verset 23. mais c'est à cause de toi qu'on nous tue sans cesse, qu'on nous considère comme des moutons d'abattoir. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose ? Ce texte est cité ailleurs dans la Bible, ce verset. Quand on pousse la porte du passage secret et qu'on emprunte, on arrive en Romains 8. Et je vais vous lire les versets 31 à 39. « Si Dieu est pour nous, écrit Paul, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce ? Qui accusera ce que Dieu a choisi ? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera ? C'est Jésus-Christ qui est mort. Bien plus, il s'est réveillé, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée, ainsi qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort constamment, on nous considère comme des moutons qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principat, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il nous faut être attentifs à ce passage secret. Et je crois que dans ce passage, en plus d'encourager l'Église de Rome, Paul nous explique le psaume 44. Je crois que la prière formée dans le psaume 44 a été exaucée. Je crois que le Seigneur s'est levé et qu'il a libéré son peuple. Cette libération, elle a mis du temps à intervenir, mais que, en Jésus-Christ, dans sa mort et dans sa victoire sur le péché, alors Dieu a répondu à la prière du psaume 44, il a répondu à toutes les prières des détresses que ses fidèles lui adressent. Tout est accompli en Jésus-Christ. Et peut-être vous reviennent les différentes choses qui ont pu être dites ce matin, par Fabrice pendant la louange, par Ivan au moment de présider la Sainte Cène, sur l'importance du sacrifice de Jésus-Christ. Et Paul relit le psaume 44, relit cette situation de détresse et encourage, nous avons tout, rien ne peut ne nous séparer de l'amour de Dieu. Quand on lit ce passage de Romains 8 tout seul, des fois on le comprend mal. Et ce verset est très fort. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Super. Mais ce verset ne dit pas que tout ce qu'on touche se transformera en or. Il ne dit pas que quoi qu'on fasse, ça va marcher. Non, au contraire. Paul parle clairement de ce qui se passe, de la détresse, de l'angoisse, de la persécution, de la faim, du dénuement, du péril ou de l'épée. Ce qui est venu apporter Jésus, ce n'est pas que tout ce qu'on fasse, cela réussisse selon nos critères, ce n'est pas que nous ayons une vie confortable. Mais ce que dit Paul, que nous avons tout. Peu importe ce qui nous arrive, nous avons tout dans ce qu'est venu apporter Jésus-Christ, dans cette nouvelle relation que nous avons avec Dieu, dans cette vie que nous avons commencé avec lui et qui ne s'arrêtera jamais, même si on meurt. Est-ce que nous faisons là les difficultés contre lesquelles nous nous battons? Nous pouvons nous battre personnellement ou nous pouvons nous battre en Église. Le désir de croître, de voir le royaume de Dieu avancer, nos projets, notre projet immobilier, nos actions d'évangélisation. Tout ça, c'est des choses que nous faisons en attendant. En attendant le retour du Seigneur. Il viendra siffler la fin du match dont nous savons qu'il est gagné. La victoire, nous l'avons en Jésus-Christ. Rien ne peut la retirer. Aussi, nous pouvons prier, comme le fait le psaume 44. Nous pouvons prier avec force. Nous pouvons oser nous adresser à Dieu de façon directe. Dieu continue d'aimer ça. Jésus l'a dit, demandez, insistez. C'est dit dans les évangiles, d'insister dans la prière, de persévérer. Comme cette veuve qui allait casser les pieds tous les jours du juge qui représente Dieu jusqu'au jour où elle obtient ce qu'elle veut. Prions. Mais nous savons que la victoire est remportée. Aussi, avec cette invitation à la prière, il y a une autre invitation, celle à lever les yeux et à voir que nous avons tout. À croire à ces paroles que nous avons chantées, à nous réjouir de notre espérance. Je vous invite à la prière. Seigneur, il n'est pas toujours facile de marcher avec toi. Et ce n'est pas facile parce que, d'un côté, quand on est près de toi, dans la communauté de l'Église, dans la lecture de la parole, dans la prière, la foi est présente. Mais d'un autre, tu nous as placés dans un monde qui nous bouscule, qui nous questionne, qui rend les choses difficiles. Difficiles pour nos corps, difficiles pour nos émotions, difficiles pour nous-mêmes. Oui, Seigneur, il nous arrive de connaître la lutte, il nous arrive de connaître la détresse. Il nous arrive de perdre pied quand nous ne sommes pas exaucés. Et Seigneur, j'aimerais te prier que tu unifies nos cœurs, que tu nous aides à n'avoir qu'une seule pensée, à comprendre. Comprendre que parfois le chemin est difficile, mais comprendre au plus profond de nous-mêmes que la victoire est remportée. Que cette pensée nous habite, Seigneur, et qu'elle grandisse en nous qui avons décidé de te suivre depuis longtemps ou peu de temps, en nous peut-être qui nous interrogeons, ne sachant quelle décision prendre. Oui, Seigneur, habite-nous, que nous soyons à toi. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.